sur Amuse-Gueule, la radio francophone et la francophonie. Et ce soir, nous sommes en tout petit comité réduit. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, la qualité, c'est prime sur la quantité. Je suis avec Max ce soir, qui est la technique.
Salut Else.
Salut
tout le monde.
Else en rubrique. Il y a toujours plein de sujets à discuter. Et ce soir, je voulais un petit peu faire un hommage à Jean Piat, qui nous a quittés la semaine dernière. Un grand acteur français, un monstre sacré en fait, qui s'est fait connaître notamment dans Les Rois Maudits. Et j'ai trouvé un très bel interview qu'il a fait. Et que j'aimerais passer parce que ça donne vraiment une idée de sa carrière et de ce qu'il a accompli.
Il est mort à quel âge ?
Tu me poses une bonne question. Je pense qu'il est assez vieux quand même. Je pense qu'il doit avoir 90 ans en passé.
90, d'accord.
Ouais.
Mais il jouait encore à 90 ans ?
Non. Mais il était à la Comédie Française, il y est resté très longtemps. Et de la comédie classique, il a fait aussi des pièces de théâtre de boulevard. Et c'est un très bel homme. Aux yeux bleus. Donc à l'époque, ça faisait tourner pas mal de têtes. Donc dans les années 50, 60, 70, 80, il donnait le ton.
Ok, c'était avant que je sois né. Donc.
Oui. Donc c'est une interview qui je crois, c'est faite dans les années, je pense, 80 ou même 70, où des jeunes étudiants lui posent des questions sur sa carrière et puis. Et voilà, il donne un petit peu son point de vue sur le sujet.
Ok, on va s'écouter ça.
Ouais.
On va commencer avec une petite musique d'abord.
Qu'est-ce qu'on va mettre, Max ?
Alors j'ai ressorti du Zaz pour faire un petit clin d'œil à la
valeur sûre. quel titre ?
On ira. Un petit classique.
Donc, bah, allons-y.
Un petit clin d'œil à l'Aveyron, puisque je suis Aveyronais. Ça s'entend, je sais. Allez, c'est parti.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Tianevo, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme, et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs, et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs mélanger de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh.
Bon, pendant la musique, je vérifiais l'âge du décès de Jean-Pierre. Il est mort à 93 ans, un peu avant, je crois, son anniversaire, à 94. Donc, il a une vie bien remplie. Et j'expliquais à Max que c'était un très bel homme. Donc, voilà. on passe l'interview.
On passera ça, ok.
Ouais, alors, vas-y.
J'essaie de lancer ça.
Êtes-vous un enfant de la scène ?
Non, du tout, non. J'ai un grand-père qui jouait du piston, mais c'est le seul élément artistique de la famille.
Comment avez-vous fait pour rentrer à la Comédie Française ?
Écoutez, j'ai suivi une filière normale, je suis entré au conservatoire en 44. Et en 46, j'ai été démissionné du conservatoire, pour ne pas dire fichu à la porte, pour des raisons disciplinaires, bon, c'est à peu près ça. Et ça m'a permis de faire un an de boulevard et d'attendre un tout petit peu, mais j'avais quand même beaucoup d'amitié encore gardée au conservatoire et déjà un petit peu entré au théâtre français. Et j'ai eu une demande d'audition en juin 47. Et j'ai passé l'audition, donc je suis entré sur audition au théâtre français.
Vous étiez indiscipliné comme ça.
Indiscipliné, c'est-à-dire que je tournais un film qui était d'ailleurs un très mauvais film, et sans congé, sans autorisation du directeur du conservatoire de cette époque-là. Et alors c'était très drôle parce que lui, il venait d'entrer en fonction après la guerre, après la libération, en 44. Et 10 ans plus tard, moi je l'ai retrouvé. Alors lui était mis à la retraite de l'Odéon, et moi j'étais au jury du conservatoire. J'ai trouvé ça assez rigolo.
C'était pas un film dont vous ne tenez pas tellement.
C'était un film dont je ne tiens pas tellement parlé.
On
parlait d'ailleurs, mais c'était très mauvais. D'ailleurs, ça a changé mon destin, parce que si le film a été bon, je serais peut-être jamais rentré au théâtre français.
On a eu la gentillesse de ne pas vous le passer, d'ailleurs.
Vous avez très bien.
On l'a retrouvé.
Ah oui ?
Oui.
Et vous avez pu considérer que c'était pas bon.
On l'a pas regardé, parce qu'on savait que vous ne l'aimiez pas.
2 heures de perdu.
À quel âge est-ce que vous êtes rentré à la Comédie Française ?
Bah écoutez, mon contrat est parti du 1er septembre 1947, donc j'avais 22 ans et 11 mois.
Et pourquoi avez-vous quitté la Comédie Française ?
Eh bien, pour beaucoup de raisons. D'abord, je ne crois pas qu'on puisse faire maintenant de nos jours une carrière totale de la vie entière au théâtre français. Je suis entré très jeune. Et mettons, si Dieu vous accorde 50 ans de carrière, ça fait donc 73 ans. Et je ne crois pas que je puisse continuer à jouer la comédie jusqu'à l'âge de 73 ans, théâtre français, dans de bonnes conditions. Enfin, je pense pour moi et par rapport à un public. Alors ça, c'est une raison. Je crois qu'il faut entrer jeune, ou alors à l'âge de la maturité, et faire un parcours de 25 ou de 30 ans, etc. Car le théâtre français, la force du théâtre français, c'est d'avoir, si vous voulez, à sa disposition une réserve d'acteurs constante. Et il est normal que, sans qu'on cède la place aux jeunes, c'est pas ce que je veux dire du tout, mais que les jeunes vous poussent un tout petit peu. Alors je crois qu'il faut partir avant d'être poussé dehors, et puis il vaut mieux précéder l'événement que de le subir. C'est une autre raison. Puis alors, il y a une troisième raison, c'est que je crois qu'un tout homme dans sa vie, ça vous arrivera à vous aussi, à un instant de confrontation avec lui-même, enfin une espèce de bilan avec lui-même, ce qu'il a fait, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a pas encore fait, ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi. Et j'avais l'impression d'avoir atteint au théâtre français une certaine limitation. J'avais l'impression que je rejouais les mêmes rôles, que ce soit Cyrano ou Figaro, etc., qui sont de très beaux rôles, mais j'avais un besoin de création, et surtout de me prouver à moi-même que je pouvais faire autre chose, et je ne dis pas mieux ou plus mal, je ne sais pas, mais autre chose. Alors j'avais une immense curiosité vers l'extérieur, vers d'autres rencontres, d'auteurs, de metteurs en scène, etc. Et après avoir vraiment, je vous jure, beaucoup réfléchi, j'ai sauté le pas, je suis parti.
Vous avez dit à Alain Leroy que l'ORTF ne possédait pas de documents sur vos pièces de théâtre. Et nous avons trouvé dans la cinémathèque de l'ORTF.
On était très curieux, on a retrouvé finalement des documents que vous ne connaissez peut-être pas.
Ah, c'est bien possible, ça.
Nous
oui.
Allons voir à l'extrait des fausses confidences.
Ah non, confidences, vous le connaissez, non ?
Je savais que ça existait, mais ouais. Je ne l'ai pas vu.
Marton vous cherche pour vous montrer l'appartement qu'on vous destine. Lubin est allé boire. J'ai dit que j'allais vous avertir. Comment vous traite-t-on ?
Elle était ma...
Je suis enchanté. De quelle façon a-t-elle reçu ce que tu lui as dit ? Elle opine tout doucement à vous garder par compassion. Elle espère vous guérir par l'habitude de la voir.
Sincèrement ?
Elle n'en réchappera pas, c'est autant de prix. Je m'en retourne.
Non, reste, au contraire. Je crois que voici Marton. Dis-lui que madame m'attend pour me remettre des papiers et que j'irai la trouver dès que je les aurai.
Bon, partez. Si bien ai-je un petit avis à donner à Marton, et il est bon de jeter dans tous les esprits les soupçons dont nous avons besoin.
Où est Dorante ? Il me semble avoir bien avec toi.
Il dit que madame l'attend pour lui remettre des papiers et il reviendra ensuite. Ou est-ce qu'est-il nécessaire qu'il voie cet appartement ? S'il n'en voulait pas, il serait bien délicat, pardi. Je lui conseillerais...
Ce ne sont pas là tes affaires. Je suis les ordres de madame.
Madame est bonne et sage, mais prenez garde.
Ne trouvez-vous pas que ce petit galant-là lui fait les yeux doux?
Il les fait comme il les a.
Je me trompe fort si j'ai pas vu la mine de ce freluquet considéré je ne sais où, celle de madame.
Eh bien, est-ce qu'on le fâche quand on la trouve belle?
Non, mais je me figure quelquefois qu'il est venu ici pour la voir de plus près.
Ah non, quelle idée. Bah, tu n'y entends rien, tu t'y connais mal.
Je suis donc bien sot.
Oh, l'original avec ses observations.
Allez, allez, prenez toujours. J'aurais soin de vous les faire trouver meilleurs. Allons faire jouer toutes nos batteries.
À quelle année se situe ce passage
Ça, cette émission-là?
Oui.
C'est les fausses confidences, c'est dans le cadre des émissions que le théâtre français organisait pour l'ORTF et en collaboration avec l'ORTF à l'Odéon. C'était fait donc au théâtre, c'est pas du tout fait en studio, c'est dans le décor même de la pièce, transporté à l'Odéon, provisoirement transformé en studio, donc ça doit remonter, nous sommes en 73, ça a dû être fait en 71.
Ah oui, c'est très récent.
C'est très récent, oui.
Vous arrive-t-il d'avoir le trac?
Il m'arrive souvent d'avoir le trac, oui. Je crois que c'est un phénomène inévitable, et puis je crois même souhaitable, parce que ce qui est important dans notre métier, si vous voulez, c'est l'émotion qu'on peut ressentir, quelques pièces qu'on puisse jouer, comique ou dramatique ou tragique, c'est l'émotion qu'on peut ressentir à présenter pour la première fois devant un public ce qu'on peut appeler tout de même pour un acteur une création d'un personnage. Et cette création suscite une émotion, ce qu'on appelle le trac, et elle est indispensable. Il y a des acteurs, rares d'ailleurs, je crois, qui n'ont pas le trac, et bien et je crois qu'il leur manque quelque chose. Et je ne peux pas vous dire que ce trac continue à mesure que la présentation s'écoule. À la 50e d'une pièce, on n'a plus le trac du tout, ou en tout cas, ça peut revenir.
Mais enfin, ça nous arrive des ennuis, d'ailleurs.
C'est d'ailleurs là où on se prend le pied dans le tapis régulièrement. Mais enfin, aux premières, oui, on a le trac, et c'est un phénomène indispensable, je crois.
Bon, bien maintenant, nous allons voir un extrait de Ruy Blas.
Alors ça, Ruy Blas, ça avait été fait...
Lequel? Parce qu'il y a eu deux Ruy Blas. Moi, j'ai fait un Ruy Blas avec Barma il y a une dizaine d'années.
Le voilà.
Ah non, ça, c'est celui de Raymond Rouleau. Enfin, celui d'eux. C'est celui que Raymond Rouleau avait fait avec la Comédie Française aussi.
Un piège d'alouette ou bien de jeune fille. Il faut par quelques plans terribles et merveilleux. Tu n'es pas que je pense un homme scrupuleux. Me venger.
Vous venger?
Oui.
De qui?
D'une femme.
Ne m'en dites pas plus. Halte là! Sur mon âme, mon cousin. En ceci, voilà mon sentiment. Celui qui bassement et tortueusement se venge, ayant le droit de porter une lame, noble, par une intrigue, homme sur une femme, et qui naît gentilhomme, agite en alguazil. Celui-là fut-il grand de Castille? Fut-il suivi de son clairon sonnant des tatamars? Fut-il tout harnaché d'ordre et de chamard, et marquis, et vicomte, et fils des anciens preux? N'est pour moi qu'un maraud sinistre et ténébreux, que je voudrais pour prix de sa lâcheté vile, voir pendre à quatre clous au gibet de la ville.
César.
N'ajoutez pas un mot. C'est outrageant. Gardez votre secret. Et gardez votre argent. Or, je comprends qu'on tue et qu'on vole et qu'on pille. Que par une nuit noire, on force le bastille d'assaut la hache au poing avec 100 flibustiers. Qu'on égorge estafiers, geôliers et guichetiers. Tous taillants et hurlants, bandits que nous sommes. Œil pour œil, dent pour dent, c'est bien. Homme contre homme. Mais doucement détruire une femme, et creuser sous ses pieds une trappe, et contre elle abuser, qui sait, de son humeur, peut-être hasardeuse, prendre ce pauvre oiseau dans quelque glu hideuse. Oh. Plutôt qu'arriver jusqu'à ce déshonneur, plutôt qu'être à ce prix un riche et haut seigneur, et je le dis ici pour Dieu qui voit mon âme, j'aimerais mieux, plutôt qu'être à ce point infâme, vil, odieux, pervers, misérable et flétri, qu'un chien rongea mon crâne au pied du pilori. Cousins vont bien fait, je n'aurai nulle envie. Tant que je trouverai vivant ma libre vie aux fontaines de l'eau. Dans les champs le grand air. À la ville un voleur qui m'habille l'hiver. Dans mon âme, l'oubli des prospérités mortes. Et devant vos palais, monsieur, de larges portes où je puis à midi, sans souci du réveil, dormir, la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Adieu donc. De nous deux, Dieu sait quel est le juste. Avec les gens de cour, vos pareils, dont Salluste, je vous laisse. Et je reste avec mes schnappants. Je vis avec les loups, non avec les serpents.
Un instant.
Venez, maître, abrégeons la visite. Si c'est pour m'envoyer en prison, faites vite.
Ah non, je vous croyais, César, plus endurci. L'épreuve vous est bonne et vous a réussi. Je suis content de vous. Votre main, je vous prie.
Comment?
Je n'ai parlé que par plaisanterie. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour vous éprouver. Rien de plus.
Ça, debout, vous me faites rêver. La femme, le complot, cette vengeance.
Fleur, imagination, chimère.
quel est le film ou
la... C'est la définition du clochard, ça. Plus oui, vous parliez de ça, mais il vient de la donner d'une façon extraordinaire. C'est sublime, c'est poétique.
C'est du 19e siècle, le clochard, au fond.
Si on prend Hugo, c'est certain. Ça devait certainement exister, bien sûr.
Pardon. Quel est le film ou la pièce qui vous a rendu célèbre?
Je ne sais pas, mademoiselle. D'abord, vous savez, célébrité est un mot qui...
On va faire une petite pause parce que l'interview dure encore, mais ça donne déjà une idée du ton et de la qualité des textes de ce grand acteur.
Ouais, c'est vrai que... je crois que non, je ne l'ai peut-être jamais vu, en fait. Comme je disais, c'est pas tout à fait de mon époque.
J'évoquais Ruy Blas, parce que Ruy Blas de Victor Hugo, nous l'avions étudié en première, mais Max me regarde avec grands yeux en m'expliquant que sa génération à lui... Ne fait pas du programme. Donc du coup, je me sens un petit peu
vieille. J'ai pas dit. On est à la radio, ça se voit pas du tout. Non.
Non, merci Max. Mais donc ça fait du bien quand même de retrouver des grands classiques parce que eux ne vieillissent pas. On va faire une petite pause musique bien de notre temps. Max, tu avais.
C'est ça. Du coup, pour l'occasion, on va mettre Adieu de Cœur de Pirate.
Vas-y. On va mettre le petit câble magique.
Ouais, faut brancher déjà.
Ça aide.
Tu ris si mal, tu ris de vide. Des taches de vin sur ta chemise. Qui a de poutres en éclatait. Sur ton corps qui le repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées. Maman le manque la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu le menace de partir. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur. Car tu sais que plus rien ne me fait. Mais dis-moi qu'on reste amis. Bon, c'est gentil, ça va comme ça. Mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre. Rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi, je me lève et toi, tu meurs. Menace de partir. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien, chérie, prends donc la peur. Car tu sais que plus rien.
Et voilà.
Ouais, ça bouge, hein.
Ça donne un peu de dynamisme, ouais.
On va continuer la deuxième partie d'interview de Jean-Pierre. Et il va nous emmener vers d'autres domaines.
Quel est le film ou
la... C'est la définition du clochard, ça. Plus oui, vous parliez de ça, mais il vient de la donner d'une façon extraordinaire. C'est sublime, c'est poétique.
C'est du 19e siècle, le clochard, au fond.
Si on prend Hugo, c'est certain. Ça devait certainement exister, bien sûr. Pardon.
Quel est le film ou la pièce qui vous a rendu célèbre?
Je ne sais pas, mademoiselle. D'abord, vous savez, célébrité est un mot qui me fait quelque chose de... Non, c'est un mot inacceptable. Mais je crois qu'une carrière s'est faite d'une certaine somme de rôles, de rencontres, avec des pièces, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'ait rendu célèbre. Si vous voulez, je sais que la télévision est un moyen de connaissance ou de célébrité énorme, de divulgation du nom et, d'un, et d'une œuvre et d'un acteur énorme. Donc, évidemment, la première fois où j'ai abordé la télévision avec une série qui s'appelait Lagardère, ça donnait des résultats importants. Mais la célébrité est un phénomène très provisoire et qui a besoin sans arrêt dans notre carrière et dans toutes les carrières d'ailleurs, de confirmation. Alors, il n'y a pas eu un rôle. Si vous voulez, il y a eu, oui, peut-être une marche d'escalier au Théâtre français qui a fait je suis sorti d'un certain anonymat, c'était Cyrano, parce que c'est un rôle très populaire et une pièce elle-même très populaire. Donc, ça a évidemment provoqué quelque chose. Puis ensuite, cette série auquel je faisais allusion. Mais, si vous voulez, je crois que une grande carrière, c'est une carrière qui, dont l'accomplissement va loin dans le temps, dans l'âge, etc. Et avec des petits brevets de confiance comme ça que la vie vous accorde à travers un rôle ou une pièce ou un film ou une télévision.
Monsieur Biros, qui voudrait vous poser une question.
Oui, bien sûr.
Vous demandez, quelle est la pièce qui vous a le plus plu que vous avez joué dans votre carrière?
C'est aussi difficile de vous répondre. C'est un petit peu comme si vous me demandiez quel est le livre qui m'intéresse le plus, ce qui me touche le plus. Je vous répondrai très directement, je crois, et sincèrement, ce que j'aime le plus jouer, c'est ce que je joue à l'instant où je le joue. Actuellement, je joue une pièce Françoise Dorin, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai fait, mais j'aime beaucoup jouer ça parce que c'est une pièce comique, qui est une pièce en veston, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps, ou pratiquement jamais. C'est un succès important, donc je suis très heureux de jouer ça. Par contre, il est certain que on aime mieux jouer de très beaux rôles et des choses qui marquent, évidemment. Donc Cyrano, donc Le mariage de Figaro, même Les fausses confidences que j'ai mis en scène et joué, etc. Ça m'a procuré de grandes joies. Mais il n'y a pas eu un rôle qui m'a plus particulièrement attiré ou... Non.
Si. Bon, et bien maintenant, nous allons voir une séquence des Rois maudits.
Ah oui, qui a contribué justement cette...
Oui, c'est, oui. C'est la deuxième grande série, si vous voulez. Hein. Oui.
Je suis le comte Robert d'Artois.
Robert, mon cousin.
Oui, votre cousin, mesdames, et votre serviteur.
Bien voyez, mon cousin, ce qu'on a fait de nous. Même pas un siège à offrir à un seigneur de votre poids.
Capitaine.
Monseigneur.
Il n'y a donc pas de feu ici?
Non, monseigneur.
Mais qu'on en fasse.
Il est immeuble.
Où sont-ils?
J'avais des ordres.
Eh bien, tu en as d'autres. Un lit, des chaises, des flambeaux, et vite.
Et à manger. De grâce.
Comment à manger? Mais bien sûr. Des pâtés, des rôts, des légumes frais, de bonnes poires d'hiver et des confitures.
Mais...
Et du vin! Beaucoup de vin!
Mais monseigneur...
Non mais il est sourd ou quoi?
Monseigneur?
Marguerite. Vos cheveux.
Quoi, mes cheveux?
Sont-ils bien fournis à nouveau?
Que faut-il vous montrer d'autre, mon cousin?
Mais je ne voulais pas vous offenser, ma cousine. Simplement savoir si vos cheveux étaient revenus assez longs pour que vous puissiez vous présenter au monde.
Qu'est-ce que vous venez me dire?
Je suis venu vous délivrer...
Ah.
Un message.
De qui?
De Louis, votre époux. Notre roi, désormais. Et de notre bon cousin, Monseigneur de Valois. Mais j'ai ordre de ne parler qu'à vous seul.
Certes, je vais me retirer. Mais auparavant, mon cousin, un seul mot.
Oui.
Charles, mon mari, que pense-t-il de moi?
Depuis Pontoise, on ne l'a jamais vu gai comme avant. Je crois qu'il vous regrette, en dépit de ce qu'il a souffert par vous.
Pensez-vous qu'il me pardonne?
Ça dépend beaucoup de votre cousine.
Bon, eh bien, pour terminer, nous avons fait une petite surprise. Nous allons voir un extrait de Cyrano de Bergerac.
C'est une petite surprise pour Jean-Pierre.
Vu que, oui, hein? Il n'était pas au courant que...
Vous êtes déjà vu quand même dans Cyrano, non?
Jamais, non.
C'est vrai? C'est non, la première fois?
Ça, c'est la première fois.
Ah, bon, on va vous regarder. On va vous regarder.
Parfois, la main en sang de quelques grappements vous a courrié. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure: qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure?
Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Non. Montrez-la. Hein? À votre âge encore. Où t'es-tu fait cela?
En jouant du côté de la porte de Mel.
Damné.
Si gentiment, si gaiement maternelle.
Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous?
Oh, pas tout à fait sans.
Racontez.
Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire.
À présent, j'ose. Car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Qui ne le sait pas, d'ailleurs.
Ah.
Pas encore.
Ah.
Mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore.
Ah.
Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire.
Ah.
Laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre.
Ah.
Et figurez-vous, tenez, que justement... Oui, mon cousin, il sert dans votre régiment.
Ah.
Puisqu'il est cadet dans votre compagnie.
Ah.
Il a sur son front de l'esprit. Du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau.
Beau?
Je veux dire que c'était, ça a dû être pris au début des plantations en 64. C'était
oui.
le premier-né. Il
c'est
me paraît
pour
tout
ça, il m'a dit.
Oui, oui, sûrement, parce que je ne me rappelle pas du tout cette histoire-là. Ça a dû être fait pour une interview.
Comment vous vous trouvez, sincèrement?
Trop jeune. Trop jeune. Je trouve le visage trop lisse.
Moi, je
vous
trouve votre très jeune, très jeune premier, finalement.
Oui, oui, oui. C'était la première version du premier-né. Et après, ça a un peu gonflé. Je trouve que ça manque de pittoresque, ça manque de puissance. C'est très frais.
Il y avait encore du Figaro dans ce.
Ah, oui, ah, oui, c'est sûr. Mais je crois d'ailleurs que la scène, je jouais plus puissamment que ça. Là, je sens qu'il y a une espèce de limitation des moyens à cause de la caméra. Et c'est... Je dis pas que ce soit mauvais ou pas, c'est pas
jugé,
mais ça manque de couleur, sans jeu de mots. Oui,
c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. une question
est
encore.
Mon but?
Oui.
C'est de jouer longtemps, bien sûr, mais si vous voulez, c'est de ne pas perdre une certaine image de marque. C'est-à-dire que je voudrais... autant que possible, garder une certaine qualité dans les choix. Ça, c'est très important. Je voudrais tenir le coup dans ce domaine, ne pas être poussé par des nécessités précises, tenir un certain rang et une certaine qualité dans ce rang, quoi. Ne pas me laisser aller à des choses, et c'est quelquefois pas facile, enfin... parce qu'il faut, il vaut mieux quelquefois attendre 2 ans avant de jouer une pièce, plutôt que d'en jouer une pas très bonne.
Une question encore.
Avez-vous déjà été sifflé ou hué?
Ah oui, ça m'est arrivé une fois. Mais c'était accidentel. Ceci, il y avait un comédien farceur, je peux dire son nom, c'est Daniel de Courtois.
Ah oui.
S'il écoute l'émission, ça l'amusera. Ce cochon-là me faisait rire en scène dans un Shakespeare qui s'appelait Le Comte d'Hiver, qui est une pièce très légère et comique de Shakespeare. Mais enfin, les acteurs ne sont pas priés de rire quand ils jouent un Shakespeare. Et c'est un terrible blagueur. Il me faisait me racontait des trucs pendant que je racontais mon texte, et puis je me suis vu éclater de rire. Tout d'un coup, il y a un sifflet qui est parti au théâtre français, je ne sais plus quel étage, mais pas tellement. Ni à l'orchestre, c'était plutôt dans les rangs un peu élevés, mais je suis parti comme ça, et j'ai eu l'impression de recevoir une gifle de rappel terrible. C'était vraiment très dur. Là, j'entends encore le son du sifflet, il y a 15 ans ou 20 ans de ça. Ça avait été extrêmement brutal et
c'est pire que
utile.
Le billet de service du régisseur, hein, qui rappelle le billet de service.
Et puis c'était utile, parce que je crois que c'est une chose qu'on ne doit pas... On ne doit pas se laisser aller à cette chose-là. On ne doit pas se laisser aller à rire quand on joue un personnage.
Et oui, se recevoir une gifle au théâtre.
Il s'en souvient encore 20 ans après. Ouais, ouais. Oui, oui, ça donne envie de retrouver tous ces grands moments de théâtre et de revoir le personnage.
Je croyais que tu allais dire, ça donne envie de remonter sur les planches.
Ça te donne envie?
Bah oui, toujours, hein, toujours.
Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement, quand on touche un peu au théâtre, après, on prend la mesure de ce que c'est et on voit le. C'est vraiment une vocation et beaucoup de travail.
C'est ça, oui. Exactement.
C'est... ouais. Ouais, et... Oui, on parlait des rois maudits, bien sûr, ce que Jean-Pierre donc, a été... On pense souvent à ça, ce qui s'est quand même fait connaître. Et là aussi, il faut retrouver ça, retrouver dans les archives et les regarder, parce que c'est quand même des beaux moments. Des moments. Max.
Oui.
Malavida.
Malavida de Manu Chao.
Allez.
Pour mettre un peu d'énergie.
Ouais.
Ça va bien, c'est juste pas assez fort.
Le câble est mis, hein.
Allez. Ça se termine, c'est direct.
Ah, la coupure.
C'était violent.
mais c'est entraînant, effectivement. Là, ça donne un petit reboot d'énergie. Si on a un petit mou le matin, c'est ouf.
C'est ça.
Ouais.
C'est ce que t'écoutes le matin.
Non, j'ai deux petits garçons qui me donnent déjà leur quota de. Remarque, non, il faudrait peut-être que je me reboote. Ouais.
C'est peut-être la raison.
Ouais.
La prochaine fois.
Effectivement. Effectivement. Moi, je voulais en profiter pour... j'ai trouvé des articles intéressants dans les journaux qui traitaient des grands escrocs du 20e siècle. Hein. Ça, c'est l'escroquerie, c'est quelque chose qui est lié à l'humain, je pense. Et à chaque époque, il a son lot. Mais là, quand même, j'en ai trouvé quelques-uns qui avaient quand même fait très, très fort. Et, et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler. Le monsieur en question s'appelle Victor Lustig, et Lustig en allemand ça veut dire drôle. C'était déjà le nom fait.
D'accord.
Est assez drôle. Donc Victor Lustig est autrichien, et on est dans les années 20. Je vais vous donner un petit peu une idée de ce qu'il a fait. Un café de Vienne au milieu des années 20, à sa table, Victor Lustig sirote un verre de rhum martiniquais, le sourire aux lèvres. Le costume sobre et la moustache fine, il savoure son alcool entouré de femmes légères. L'heure est à la fête, car depuis un mois, Lustig est un homme riche. Il n'a pas hérité, il n'a pas davantage fait de fortune dans les affaires, il a simplement réalisé la plus audacieuse des escroqueries jamais imaginées, vendre la tour Eiffel.
Wow.
Symbole d'une nation, à un ferrailleur parisien. Alors, c'est dans un autre café sur l'avenue des Champs-Élysées que l'idée a surgi un mois plus tôt. Donc, né en 1890 dans une petite ville de l'actuelle République tchèque, donc plutôt tchèque qu'autrichien, Lustig est un enfant paresseux. souvent la paresse fait engendrer des idées. Mais il possède déjà les qualités nécessaires à une brillante carrière d'escroc. Il est charmeur, fin psychologue et un don inné pour les langues. Il en maîtrise 5, dont l'anglais et le français. Et pour se faire la main, il squatte durant de longs mois les bateaux reliant l'Europe aux États-Unis. C'est vrai que c'est pas mal si on veut un peu faire travailler ses langues, on va sur le bateau.
On a le temps de pratiquer.
Ouais. Les liaisons transatlantiques charrient avec alors tout ce que le vieux continent compte de gogo, avide de gloire et d'argent. Des proies idéales pour le jeune loustique qui plume à l'envie le chaland lors de parties de bridge et de poker viciées. Mais l'argent même facile ne fait pas le bonheur, car loustique a une passion cachée. Paris. Alors, apprenti escroc, il avait brièvement posé ses valises dans la ville Lumière avant que la Grande Guerre n'emporte ses rêves de fortune. Le souvenir de la capitale française, sa vie culturelle foisonnante, l'élégance des hommes, la volupté des femmes ne l'a jamais quitté. À ce souvenir ému s'ajoute cette fois la folie et l'insouciance de l'entre-deux-guerres, un terreau idéal pour les affaires. En 1925, Loustig élit domicile dans une suite du Crillon. Tout simplement. Luxueux palais parisien, où il fait la rencontre d'un certain monsieur Dante, dit Dandy, un arnaqueur à la petite semaine, mais au talent certain qui devient son fidèle complice. Mmh. Faites attention, hein, si vous allez dans les palaces, on ne sait jamais
ça m'arrive.
Ouais. Alors pendant 3 jours, les deux hommes passent l'essentiel de leur temps à siroter du pastis dans un bistrot de la plus belle avenue du monde, à la recherche d'un joli coup. Mais rien ne vient. Le 4e jour, un article du journal attire l'attention de Loustig. Le rédacteur explique que la Tour Eiffel, donc le monument phare de l'exposition universelle, donc à l'époque, en fait, l'idée c'était de démonter la Tour Eiffel, hein, elle ne devait pas du tout rester.
C'était pas pour rester.
Non. Donc, l'expo universelle, pas de 1900, mais de 1889. Il y en a une autre. N'est plus qu'un tas de ferrailles rouillées dont l'entretien est un gouffre financier pour la ville de Paris. L'emblème de la France est par ailleurs toujours autant décrié. C'est vrai qu'à l'époque, elle n'était pas beaucoup aimée, hein, la Dame de Fer. Ouais. Et la campagne virulente menée par les intellectuels, Émile Zola en tête, contre le projet jugé disgracieux de Gustave Eiffel est restée dans les mémoires. L'idée jaillit en un éclair. Je vais vendre la Tour Eiffel et ça ne fera aucun scandale, s'écrit Loustig devant son complice éberlué. Mais c'est vrai que les choses les plus énormes, en général, passent.
C'est pour ça, oui, c'est ça.
Ouais. Bon, aujourd'hui, moi, mais... Alors, pour mener à bien leur projet, les deux compères fabriquent des papiers en tête de la société d'exploitation de la Tour Eiffel et envoient un courrier à 5 ferrailleurs de la capitale. La lettre révèle que la ville de Paris a décidé de se séparer du monument par souci d'économie et invite les candidats à l'achat à se déplacer en personne au Crillon quelques jours plus tard. Le jour dit, Loustig se présente comme un fonctionnaire des postes chargé de la vente. Devant lui, les 5 destinataires de la missive sont présents. En réalité, 4 d'entre eux sont des complices de Loustig. Le 5e, un des principaux marchands de fer de la capitale, devient immédiatement la cible de l'escroc. L'histoire a eu beau jeu de retenir son nom, Monsieur Poisson. La suite n'est qu'une formalité. Attiré par le magot que représente la dame aux 7000 tonnes de fer, le commerçant fait une offre au moins de 5 jours après la réunion du Crillon. Et le jour de la remise du chèque, Loustig pousse l'audace jusqu'à demander un pot de vin à sa victime. Une requête qui rend la mise en scène plus crédible, encore en ces temps de corruption généralisée.
D'accord. Alors, un petit pot de vin.
C'est, j'ai l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui, mais je suis peut-être naïve. Mais ferré de bout en bout, le malheureux Monsieur Poisson n'osera jamais porter plainte. Après ce coup de maître, Loustig s'exile aux États-Unis, où il tente cette fois de plumer Al Capone en personne.
Et du coup, la Tour Eiffel, ça a marché. Il est parti
aux États-Unis. Donc, s'attaquer à Al Capone, quand même, c'est un peu plus compliqué.
On sait combien il a vendu la Tour Eiffel.
Je pense que je pourrais te trouver le chiffre quelque part.
Okay. Bon,
c'est quand même une somme importante.
Ouais, j'imagine, ça fait de la Ferrari. Ouais.
Al Capone, il échoue, mais réussit malgré tout à soutirer 5000 $ au roi de la pègre. Bon, il a quand même réussi un petit peu à le plumer, qui s'est entiché du personnage. Tu sais combien de fois il a été arrêté?
0.
47 fois. Arrêté 47 fois sans être condamné. Il est finalement incarcéré à Alcatraz après une 48e et ultime filouterie. Il meurt le 9 mars 47 d'une pneumonie dans la mythique prison de la haute sécurité californienne.
D'accord.
Donc, une carrière pas mal, en fait, hein, en tant qu'escroc.
Pas de carrière, ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que, oui, vendre la Tour Eiffel, c'est un coup audacieux et comme quoi... Il ne faut pas se faire...
Si tu n'es pas au bon moment et si tu as les papiers qui ont l'air officiels, bon, c'est
je pense crédible. Qu'aujourd'hui, avec les moyens informatiques qu'on a, on peut faire... déjà, dans les courriels, dans les emails, on reçoit souvent des fausses... Ouais. C'est vrai que je pense que pour des gens qui sont plus âgés ou qui font pas attention, on peut facilement...
Carrément, oui. C'est facile de falsifier des... Un coup de Photoshop,
oui.
Falsifier des papiers. Enfin, même, on voit même les passeports, les cartes d'identité, les choses comme ça, qui sont super sécurisées. Ils arrivent encore à les falsifier.
Et les cartes bleues, les numéros de cartes bleues qui arrivent
même,
à...
Oui. Bah oui, ça arrive à beaucoup de gens.
Peut-être que l'escroquerie est beaucoup plus généralisée aujourd'hui.
C'est possible, hein, on l'entend plus parler.
Avec Internet. Ouais, je pense qu'il faut se méfier effectivement des nouvelles technologies parce que il y a d'autres dangers qui nous guettent. Donc je pense qu'effectivement d'un coup comme ça, on n'en rêvera plus. Mais non, donc voilà. Je voulais vous en faire part parce que je trouvais quand même assez étonnant qu'une telle histoire ait pu avoir lieu et qu'elle ait réussi. Et donc, on va continuer avec une autre petite musique. Mais alors, là, plutôt dans la même époque, Bourvil, hein, le petit bal perdu. C'est parti.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien.
Ouais, c'est une très belle chanson, je trouve, qui est très poétique et magnifiquement interprétée par Bourvil. Je vais rester dans le XXe siècle. Hein, une autre histoire qui finalement a lieu à peu près à la même époque que la précédente et qui a fait l'objet d'un film avec Robbie Schneider qui s'appelle La banquière. Je vais vous parler de Marthe Hanau, qui est en fait l'équivalent de Madoff, mais lors des années folles. Alors, cette femme était assez incroyable. Elle prétendait stabiliser le franc, rendre du pouvoir d'achat aux petits épargnants, et même favoriser la paix dans le monde au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle finira plus modestement détenue à la prison de Fresnes, condamnée pour escroquerie après un long procès que chroniquaient abondamment les journaux de l'époque. Donc cette femme fut incarnée au cinéma par Romy Schneider, donc dans La banquière, comme je vous le dis. Donc on peut le trouver facilement sur internet. Mm-hmm. Enfin après
sur internet.
Ouais, j'ai trouvé, je crois sur. Mais c'est un film vraiment intéressant. Donc Marthe Hanau, fille de petit boutiquier du boulevard de Clichy à Paris, juive et homosexuelle, était pourtant parvenue à se hisser parmi les grands noms de la bourse dans l'entre-deux-guerres. Donc, il faut le faire déjà. Quand on est une femme, c'est déjà pas évident. ouais. Les surnoms n'ont pas manqué pour caractériser cette femme massive et pourtant séduisante que Romy Schneider a incarnée donc au cinéma de Francis Giraud. Madame 8%, en raison du rendement qu'elle promettait. Walkyrie des hors-côtes, encore messie du bas de laine. Ces périphrases disent l'ampleur de l'ambition de la banquière et la confiance que des milliers d'épargnants ont placée en elle. Donc effectivement, elle garantissait 8%. C'était clair et net. Elle commence donc à séduire ses épargnants à partir de 1925 grâce au conseil boursier qu'elle prodigue dans le journal financier qu'elle a judicieusement créé, la Gazette du Franc. Elle ouvre ses colonnes aux experts et aux hommes politiques en vue qui lui offrent leur crédibilité. Donc déjà, elle manipule des gens d'influence pour...
Elle a bien commencé en avance puisqu'elle avait déjà prévu la Gazette.
Il y avait
du boulot.
L'ambition affichée de l'hebdomadaire est patriotique, relancer le franc, dont la valeur en 1926 a été divisée par 10 depuis le début de la Première Guerre. Mmh. Cette inflation est alors une préoccupation de tout un chacun. Elle grignote le pouvoir d'achat des Français, si bien que déjà les journaux se font assidûment l'écho de la vie chère. Les bas de laine aussi se vident au gré de la dévalorisation du franc. C'est une particularité des années 20. Pour ne pas alourdir la charge de la dette de l'État, les taux d'intérêt offerts par les banques pour rémunérer l'argent placé chez elles restent très bas, si bien que les taux réels sont tout simplement négatifs. Donc la croissance économique est pourtant vigoureuse et les entreprises comme les épargnants investissent la bourse. Donc les officines qui proposent de spéculer sur les marchés se multiplient, mais parmi elles se trouvent de nombreux charlatans, explique M. Gaston Breton, un économiste et auteur d'un ouvrage récent sur les Rothschild. La rue de Provence, où s'établira Marthe Hanau, compte à elle seule 470 établissements. Donc elle attaque ouvertement les banques. N'est-il pas malhonnête qu'elle rémunère les dépôts 1,5% alors qu'elle prête à l'Allemagne, par exemple, à 8 ou 12%? Donc elle y va frontalement.
Ouais, ouais.
Et donc son hebdomadaire, la Gazette du Franc, devient vite populaire et permet à sa présidente ainsi qu'à son complice, son ex-mari, M. Bloch, de recruter une clientèle pour la petite entreprise bancaire qu'ils ont eux-mêmes créée et qui se trouve opportunément adossée à la Gazette. Donc le groupement technique de gérance financière. Ça fait penser aux hommes d'affaires aujourd'hui qui investissent les journaux ou les hommes politiques qui sont propriétaires de grands journaux et qui...
Ça n'a pas changé alors, c'est la même technique. Elle a réussi à ouvrir un établissement bancaire comme ça. Peut-être qu'à notre époque, ce serait un peu plus difficile.
Ouais.
Je ne sais pas ce qu'il faut pour ouvrir une banque ici, enfin, en France, à l'époque.
Faudrait voir. Je suis sûre qu'on
faudrait regarder.
Ouais.
Ça donne des idées, peut-être.
Alors, Marthe Hanau se targue de proposer à ses clients un rendement de 8%. Donc, c'est bien mieux que les 1,5% des autres.
Ça paraît peut-être un peu gros, quand même. 8%, ouais. Je ne sais pas, ça paraît...
Bah oui, mais...
Trop beau pour être vrai.
C'est gros, c'est... Ben, Madoff aussi, hein, c'était ça. Garantie moyennant 10% de frais. Elle attaque ouvertement les banques. N'est-il donc pas malhonnête? Puisque aucune des banques ne suit les conseils de la Gazette, elle s'en chargera. Une seule condition est posée aux épargnants pour bénéficier de ce rendement miraculeux. Ils doivent accepter de tout ignorer du détail des opérations.
Déjà, c'est pas louche. Ne lisez pas les petites lignes en bas.
Et comme c'est des petits épargnants, c'est vrai qu'en général, on lit pas toutes les lignes des opérations bancaires.
C'est ça.
À moins d'être soi-même dans le domaine. Mais,
en même temps, tu me diras 8%, il n'y a pas grand-chose à perdre.
Du moment que tu les as, après, tu ne poses pas de questions. C'est probablement ce qui se passe. Malgré cela, le nouvel établissement financier remporte un franc succès. Il se dote de succursales en province, emploie bientôt 150 employés et parvient à placer pour 170 millions de francs de bons auprès des petits épargnants. Donc elle mène là une vie royale, quoi, une vie de... C'est une femme influente, elle y arrive. Quelle prouesse à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote.
Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, ça devait être...
Non, oui, les femmes devaient demander l'autorisation de leur mari pour travailler, ouvrir un compte bancaire, je pense que c'était pareil. C'était assez étonnant, incroyable qu'elle ait pu faire tout ça. Son entreprise se complexifie jusqu'à devenir un véritable réseau. Elle crée de multiples sociétés et syndicats qui s'achètent les titres les uns les autres pour les faire monter. La Gazette contribue aussi à animer des valeurs, c'est-à-dire à les faire monter ou baisser grâce à la publication d'informations ou de rumeurs selon l'intérêt du groupement.
Ah ouais, ouais. C'est comme
donc
aujourd'hui
avec
Twitter.
Probablement, ouais. On fait monter des rumeurs.
Monter, descendre.
Ouais.
Bon, après, donc, on peut se faire attaquer pour ça, mais...
Après, ouais, il faut le prouver, mais c'est vrai qu'il faut monter artificiellement des valeurs, qu'elles redescendent. Enfin, c'est du grand art. Elle aura dit « J'ai la nausée de l'argent, de cet argent qui m'écrasa. » Bon, ça, c'est un problème que je ne pense pas que je rencontrerai personnellement dans ma vie. Mais pour elle, oui, le succès de Marc Tano, qui mène grand train entre Paris et Deauville, contribuera à sa perte. Des grandes banques finissent par la juger menaçante. Quelques agences d'établissements nationaux ont en effet subi d'importants retraits en faveur de Martano et connaissent des difficultés. Et les banques commencent un peu à... Les banques soulignent surtout que ces activités sont dangereuses pour les épargnants et pour le marché. Les frais élevés ponctionnés laissent planer le doute d'une escroquerie et les garanties offertes paraissent illusoires. Donc ça, c'est un historien qui le pointe. Et également, Poincaré, qui était le président de l'époque, ne lui pardonne pas de s'être servi d'une interview de lui à la Gazette pour capitaliser sur son image de gestionnaire rigoureux et glaner de nouveaux capitaux. Et dans le film, il montre bien, parce que tu vois donc Romy Schneider qui va voir Poincaré, qui lui fait une dédicace et tout de suite, elle l'exploite pour... Donc la communication, c'était, je crois, un point très fort de cette femme. Elle savait communiquer et manipuler.
C'est les journaux à l'époque aussi. Maintenant, c'est Internet, c'est les...
Puis les gens,
les médias,
quelqu'un,
les gens,
tu t'affiches avec quelqu'un, tu...
Forcément, ça donne confiance. Tu dis, c'est la... Inconnu Poincaré, forcément, ça doit être vrai.
Oui, et c'est à notre époque, où effectivement, l'image est quand même surexploitée. C'est quelque chose qu'elle a bien exploité dans la sienne, mais c'était beaucoup moins facile. C'est des journaux qui tout ça. Donc pacifiste, proche des radicaux, Martano compte également des ennemis politiques. Donc Poincaré, à nouveau président du Conseil en 26, donc ne lui pardonne pas de s'être servi de lui. Et la réputation sulfureuse de Martano, parce qu'elle est homosexuelle, donc la moralité sujette à caution d'autres dirigeants du groupe, selon l'historien, et l'acharnement des titres de presse concurrents achève d'attirer l'attention des autorités sur son établissement en méthode douteuse. On veut sa peau. Bon, déjà, je pense que ses affaires ne sont pas claires, ça c'est clair, et elle s'est fait des ennemis vraiment dangereux. En 28... Donc on est 3 ans plus tard, le ministre des Finances lui-même saisit le garde des Sceaux. Il redoute qu'une maison qui se livre à de telles opérations puisse se trouver quelques jours dans l'impossibilité de rembourser ses clients, au cas où il viendrait à ne plus avoir confiance dans les destinées de l'établissement. Le 3 décembre, donc, la mère Anneau est arrêtée et conduite à la prison pour femme de Saint-Lazare. Donc elle réclame sa bonne foi, mais l'examen des comptes du groupe relève un passif de 120 millions de francs pour un actif de 37 millions. Donc là, le bas blesse quand même. Ouais. Là, il y a vraiment un problème.
C'est bizarre comment ils n'aient pas vérifié les comptes plus tôt. Alors, je ne sais pas si à l'époque ça ne se faisait pas, mais enfin, à notre époque, quand même, ils vérifiaient les comptes des banques régulièrement.
Ben, quand Madoff, donc c'était toujours une dizaine d'années, quand Madoff finalement, il a fait un système assez similaire. Il promettait un intérêt assez haut et en fait, il le payait avec les nouvelles personnes qui plaçaient leur argent. Donc, et ça s'est fait pendant quand même un sacré bout de temps. Il n'a jamais été contrôlé jusqu'au moment où ça s'est écroulé. Mais... après, il y a peut-être aussi des gens qui avaient intérêt à ce que ça...
Sûrement, oui. Ceux qui étaient à la banque, par exemple.
Mais Martineau reste cependant populaire auprès des épargnants qui lui ont confié leur économie. Elle promet de les rembourser et conteste l'examen des comptes. Pour obtenir une contre-expertise, elle entame une grève de la faim sur le modèle de Gandhi. Finalement, condamnée à 2 ans de prison pour escroquerie, puis 3 en appel, elle se suicide à la prison de Fresnes, le manuel d'Épictète à ses côtés. Et donc c'est là où « J'ai la nausée de l'argent, de cet argent qui m'écrasa », écrit-elle dans une lettre remise juste avant sa mort à son avocat. Donc elle a remboursé ses créanciers à hauteur de 40%. Donc oui, ça se termine. Je pense qu'aujourd'hui, on aura moins de scrupules. Je pense que Madoff, qui est en prison actuellement, il ne va pas se suicider. Hein. Éventuellement, ils avaient peut-être un peu plus de... C'est pas un sens de l'honneur. Je sais pas. Donc, pour avoir vu le film, effectivement, on y retrouve d'autres grands acteurs, Claude Brasseur, Jean-Claude Brialy et Jean-Louis Trintignant, donc aux côtés de Romy Schneider. Le film a été sorti en 1980 et donc il s'appelle La banquière et je vous invite vraiment à le regarder parce que ça donne bien une idée de cette femme belle et un petit peu très moderne et un petit peu escroc quand même. Un peu beaucoup.
Un petit peu.
Mais qui a su incroyablement manipuler les gens autour d'elle et faire fortune en quelques années.
D'accord. Tu recommandes le film?
Oui, La banquière. Donc,
Banquière.
80. Tu n'étais pas encore né, Max. Je le sais.
Je le sais, oui.
Mais c'est un très beau film.
Je recherche.
Très bien. On se fait une petite musique avant de se quitter?
Allons-y alors.
Qu'est-ce que c'est?
Tu nous avais mis l'hexagone de Nicolas
Sirkis. D'Indochine.
Il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, l'a pas tellement changé la France. Les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Sharon, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue en lassant. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter, il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Et ce site de l'Hexagone, c'est parce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, Paris est parti et allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions des villes, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité.
Il commémore au mois de juin un débarquement de Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est pu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien flanqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulins. Être sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dit pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés de payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarrer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé tiercée, c'est l'opium du peuple de France. Qui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y'a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffer le dindon marron. Être sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit bon, non. Si loin des cons perdait son trône, y aurait 60 millions de prétendants.
Bon, ben on a juste le temps pour vous souhaiter une bonne soirée et puis une bonne semaine. C'est le printemps. Max,
oui.
À bientôt.
À bientôt. Ben, c'était un plaisir.
C'était un grand... Toujours. Toujours
facile. De refaire un duo.
Et, ouais, et puis donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Oui, ça roule. Ben, bon week-end, bonne soirée à tout le monde. Bonne fin de dimanche.
Oui, bon, il fait déjà nuit, mais... Le printemps ouais. Est là quand même.
Ça se réchauffe.
Baby's been bad and I'm blue, I'm blue. Thinking I'm in love again with you.